J'ai le grand plaisir de donner la parole à Catherine Kinsler. Catherine Kinsler est philosophe, écrivain. Elle a d'ailleurs publié un livre l'année dernière que je vous montre, « Qu'est-ce que la laïcité ?» C'est un livre qui a été fait d'abord à l'usage de ses étudiants. Et puis, il coûte pas cher et peut vous rapporter gros sur ce thème, sur ce thème-là. Elle a été professeure de philosophie politique à l'université de Lille 3. Je peux vous dire, la connaissant depuis un bon moment, que c'est une femme engagée. Je vais vous faire une confidence. C'est une amie avec laquelle je ne suis pas toujours d'accord au plan philosophique, mais dont je partage la grande humanité. Catherine, tu as la parole.
Merci Jean-Pierre, merci pour cette invitation. Je précise que je n'ai jamais enseigné la philosophie politique, mais la philosophie de l'art et la philosophie générale. Si je fais de la philosophie politique, c'est parce que je pense qu'il faut le faire, comme citoyen. Nous venons d'avoir l'éblouissante démonstration qu'il n'y a pas de politique laïque sans politique sociale. Et en plus, cette démonstration nous a montré que le combat laïque et le combat social sont un seul et même, ne sont pas contradictoires. Et nous n'avons pas du tout eu un discours de charité, mais un discours de justice. Je voudrais remercier à ma façon M. Omari pour nous avoir rappelé ce point, et également Jean Auroux pour nous avoir rappelé qu'il y a urgence de réurbanisation. J'entends ici par réurbanisation l'idée d'urbanité, c'est-à-dire de rapport entre des sujets libres, non pas des sujets, mais des citoyens. Alors, je voudrais faire un petit peu de philosophie avec vous, parce qu'il n'y a que ça que je sais faire à peu près bien. Je voudrais aborder deux manières différentes, d'un point de vue philosophique, d'éclairer la notion de vivre ensemble. Parce que cette notion de vivre ensemble, on la trouve un petit peu partout, je la trouve un peu confuse, et quelquefois même, je trouve qu'elle donne lieu à des dérapages. Ces deux manières, ce sont deux systèmes politiques, le système de la tolérance et le système de la laïcité. Pour résumer les différences entre le modèle de la tolérance à l'anglo-saxonne et le modèle laïque tel que nous l'avons pratiqué et nous le pratiquons dans la République française, un professeur américain qui m'avait invité à faire une conférence à Princeton a dit, après avoir entendu mon exposé, il avait dit « Nous, les anglo-saxons, nous commençons par un. » Il faisait la comparaison avec les systèmes de numération. « Nous commençons par un. » Et eux, avec la laïcité, ils commencent par zéro. Et la question de la laïcité peut très bien être posée en réfléchissant sur ce raccourci. Car aujourd'hui, effectivement, on a le choix entre deux modèles pour assurer la liberté de pensée et d'expression. Alors, le modèle de la tolérance, j'entends pas par là une attitude, hein, bien sûr. Une attitude tolérante, nous sommes tous convaincu qu'il faut l'avoir, mais j'entends par là un système d'organisation politique. Le modèle de la tolérance s'interroge à partir de ce qui existe. Il existe différentes religions, différentes communautés, à un moment M, dans un endroit E, et il faut les faire exister ensemble, les fédérer. Et la plupart du temps, eh bien, cette fédération aura tendance à s'appuyer sur ce qu'il y a de commun. C'est l'idée que tous croient à quelque chose, ou du moins à des valeurs, et que sans ces valeurs, le lien politique ne peut pas être construit. Donc qu'il y a quelque chose de préalable au lien politique, et qui est de l'ordre de la foi. Ça, c'est le 1 de mon collègue. Et puis d'autre part, le modèle de la laïcité, ben, lui, commence par zéro. Ça consiste à dire toutes les croyances, incroyances et positions vont s'inscrire dans un espace qui les rend possibles, y compris celles qui n'existent pas ici et maintenant. Et pour construire cet espace, il faut supposer que le lien politique est totalement autonome, qu'il est totalement étranger à tout autre lien, qu'il n'a pas besoin d'un modèle préalable de type religieux. Entre ces deux façons de voir les choses, il y a une différence importante, car si on commence par un, si on considère que les libertés doivent avant tout se régler sur les gens et les communautés existants, on s'expose à penser aussi que le lien politique doit s'inspirer du lien religieux, que la loi peut avoir la foi pour modèle ou même comme préalable. En revanche, commencer par zéro, c'est avoir pour principe qu'aucun lien préalable, coutumier, religieux ou autre, ne peut inspirer le lien politique, que ce dernier n'a pas besoin d'un grand frère, qu'il faut faire l'effort de le construire soi-même. C'est penser que la loi et la foi sont toujours disjointes. Une conséquence non négligeable est que dans une telle perspective, la perspective laïque, la liberté est pensée de manière plus large. Dans une association politique laïque, en effet, vous le savez, toutes les croyances et incroyances sont licites dans le cadre du droit commun, y compris, et c'est très important, y compris celles qui n'existent pas ou qui n'existent pas encore. Un autre exemple me permettra de souligner l'importance de cet enjeu apparemment très abstrait, que j'ai voulu très abstrait. On entend de toutes parts qu'il est important d'assurer la liberté religieuse, et c'est tout à fait vrai. Mais il ne faut jamais oublier que la loi de 1905 installe un régime laïque, non pas en ce qu'elle garantit la liberté des cultes, parce que cela, un régime de tolérance à l'anglo-saxonne, le fait très bien. Mais l'installation du régime laïque, c'est que la loi de 1905 fait de la liberté des cultes un cas particulier d'une liberté plus large, la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire et de le dire, la liberté de suivre un culte, de changer de culte ou de n'en suivre aucun et de le dire, de l'écrire, de l'afficher. Il ne faut donc jamais laisser réduire la laïcité à la garantie de la liberté religieuse, car une telle réduction peut conduire à la limitation de la liberté pour les non-croyants. On leur demandera en effet, au prétexte du respect, de s'incliner devant les religions. Cette notion vague de respect des religions peut conduire tout droit à une législation sur le blasphème. Or, la liberté de conscience comprend aussi la liberté de dire et d'afficher tout le mal qu'on peut penser d'une religion d'une incroyance, pourvu qu'on ne s'en prenne ni aux personnes, ni aux biens, pourvu qu'on respecte le droit commun. La liberté de conscience comprend donc la liberté de non-appartenance, la liberté de ne pas se regrouper, la liberté d'être comme ne sont pas les autres. C'est une liberté fondamentale. Je peux être comme ne sont pas les autres, pourvu que je respecte les droits et les devoirs. Une association politique laïque ne réclame jamais l'identification ou la fusion avec autrui ou avec un groupe. Alors quand j'entends de temps en temps des responsables politiques réduire la laïcité à un simple vivre ensemble, hein, ils en abusent là, hein, du vivre ensemble, à un simple vivre ensemble des religions sans autre précision, je suis inquiète. Je trouve que ces déclarations sont inquiétantes, dangereuses même, car il ne faut pas confondre un vivre ensemble coutumier, qui suppose de la convivialité et une certaine sympathie, et le vivre ensemble de l'association politique dont il a été question aujourd'hui, qui ne demande à personne d'être, d'être gentil ou sympa, mais qui impose à tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. La fraternité républicaine réunit des sujets de droit qui n'ont pas d'autre motif pour se réunir que d'assurer leur propre liberté et qui peuvent déployer leur singularité et qui jouissent de la singularité des autres, qui aiment la force des autres. Elle ne réunit donc pas des potes. Elle demande au contraire à chacun de respecter les droits de tous ceux qui ne sont pas ses potes. À quoi bon ne défendre que ses potes ? Moi et les miens. C'est pas difficile, ça. Ceux qui me ressemblent, ce n'est pas difficile, cela. Et pour penser cette union qui est fondée sur une forme de séparation, sur une sorte de suspension du lien social ou coutumier, et non pas sur son abolition, bien sûr, eh bien, la laïcité nous fournit un très bon modèle. J'y reviens donc. La question de la relation entre la foi et la loi n'a pas été inventée par les Français au début du XXe siècle. Ce n'est pas une question franco-française. En effet, le grand théoricien du régime de la tolérance, John Locke, à la fin du XVIIe siècle, l'avait vu. Il dit en effet, eh bien, la loi et la foi sont disjoints. Il fonde ce régime de tolérance admirable qui existe dans les grands pays tolérants anglo-saxons. Mais il ajoute, on ne peut pas admettre les incroyants et les athées dans l'association politique. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas les croire. Ils ne peuvent pas former de lien. On ne peut pas croire à leur serment. Ils ne sont pas fiables, au sens strict. Ils ne satisfont pas à, au réquisit d'un vivre ensemble préalable. Bien, vous voyez, vous allez me dire, mais Locke, c'est l'horreur, alors. Mais non, pas du tout, parce qu'il a vu la question fondamentale. Il a vu la question fondamentale qui peut être alors formulée, le lien politique a-t-il besoin d'un modèle préalable, principalement fondé sur la fiabilité, c'est-à-dire sur le degré de foi? Eh bien, Locke répondait oui, mais il a formulé la question. Il faut retourner la réponse pour obtenir le concept de laïcité. Non, ce n'est pas nécessaire de croire à quoi que ce soit pour construire l'association politique. La loi n'a pas besoin du modèle de la foi. Elle n'a même pas à lorgner sur une forme de croyance. La République se pensera donc, je prends ici, j'emprunte une expression à un autre grand philosophe, elle pourra se penser comme un peuple de démons. Un démon, c'est quelqu'un qui veut être un dieu, qui veut être absolument libre. Comment faire exister des démons? Vous savez, c'est l'histoire que l'on raconte. Ce sont les Allemands qui racontent les histoires des frisons de l'Est. Hein, parce qu'ils se moquent d'eux. Ils disent, pourquoi en frise de l'Est, les autobus sont-ils plus larges que longs? Ben parce qu'ils veulent tous être devant. Ben voilà, nous sommes tous comme ça, nous voulons tous être devant. Et ben voilà, on va faire vivre ensemble des démons. Ces démons que Victor Hugo célèbre dans le célèbre poème « Aux soldats de l'an 2 ». Ils soufflaient dans des cuivres. Ainsi que des démons, les soldats de la République. Eh bien, c'est un courant de la Révolution française qui a opéré ce retournement, alors même que le mot de laïcité n'existait pas encore. Ce retournement est très riche, à savoir, on n'a pas besoin d'un modèle préalable de foi pour construire l'association politique. Et on peut en tirer la plupart des propriétés du concept de laïcité. Alors, je vais vous en infliger quelques-unes, mais pas complètement. D'abord, la laïcité est un minimalisme. On part de zéro. Et celui qui veut en rester à ce zéro le peut. Pas besoin de croire. Pas besoin non plus d'exiger que d'autres ne croient pas. Pas besoin de proclamer des valeurs au sens d'une foi, d'un agenouillement. On peut faire la loi sans cela, en s'accordant rationnellement sur ce sur quoi il faut faire des lois et comment il faut les faire. On se dispute, mais c'est normal. La puissance publique ne dira donc rien sur les croyances et les incroyances. Ça, c'est ce que nous appelons au sens strict le principe de laïcité. Ceci s'applique à ce que nous appelons l'espace public. Cet espace public ne comprend que l'espace qui relève, qui participe de l'autorité publique. Donc la puissance publique ne dit rien sur les croyances et les incroyances. Elle s'abstient, aussi bien dans la loi que dans les discours qui sont tenus en son nom. Cette abstention s'applique partout où la constitution des droits est engagée. Assemblée nationale et locale, tribunaux, écoles publiques et associations qui considèrent à juste titre qu'elles ont ou font une mission publique qui se hisse à cette hauteur. C'est ce qu'on appelle à proprement parler le principe de laïcité. Mais ce principe de laïcité rend possible dans la société civile, qu'on appelle quelquefois l'espace public, il y a beaucoup de confusion aussi là-dedans, dans la société civile, partout ailleurs, dans la rue, dans les lieux publics, les transports, les commerces, etc., l'application du principe de libre affichage, de tolérance. Ça veut dire qu'on peut avoir la croyance ou l'incroyance qu'on veut, la manifester publiquement, pourvu qu'on n'injurie personne et qu'on respecte le droit commun. Par exemple, on a le droit d'organiser une procession religieuse. On a le droit aussi de critiquer toute croyance ou toute incroyance sans s'attirer les foudres d'une législation sur le blasphème. Il y a donc ici un aveuglement salutaire. Le principe de libre affichage ou de tolérance s'applique, se déploie à la faveur du silence. Ainsi, le régime de laïcité combine deux principes. Mais il fait du principe de libre affichage ou de tolérance, un principe subordonné au principe de laïcité. On commence par zéro. On commence par mettre un bandeau sur les yeux du côté de la puissance publique pour rendre possible le déploiement des libertés du côté de la société civile, encadré, bien entendu, par le droit commun. Alors, vous voyez que la laïcité n'est absolument pas contraire aux religions ni aux relations communautaires. Elles s'opposent seulement aux religions et aux communautés lorsqu'elles veulent faire la loi, lorsqu'elles veulent imposer un vivre ensemble à leurs prétendus ressortissants, lorsqu'elles mettent la main sur une population qu'elles considèrent comme leur chasse gardée. Une autre manière de le dire, c'est qu'en régime laïque, il n'y a pas d'obligation d'appartenance. On peut adhérer à une communauté, on peut en changer, on peut se soustraire à toute communauté pour n'être qu'un citoyen. On peut même déduire de ce point de départ les deux principales déformations de la laïcité que nous rencontrons tous les jours dans beaucoup de discours. Vouloir étendre partout le principe de libre affichage, vous avez reconnu la laïcité ouverte, plurielle, je ne sais plus, il y a eu positive aussi, ça a été la meilleure invention. Et puis inversement, vous avez l'autre dérive, vouloir appliquer le principe d'abstention partout. Plus d'affichage religieux nulle part. Alors on rase les clochers, on débaptise les villes qui s'appellent Saint-Machin, etc. L'ultra-laïcisme. La laïcité n'est pas un courant de pensée parmi d'autres, au sens ordinaire du terme. On peut être à la fois laïque et catholique, laïque et musulman, laïque et athée. Ce n'est pas du tout la même chose, les deux, mais c'est compatible. En revanche, vous voyez qu'il y a une forme de religion, et ça c'est paradoxal, il y a une forme de religion à laquelle la laïcité est absolument contraire, c'est la religion civile. La foi n'a pas à faire la loi, d'accord, mais la loi n'a pas à se transformer en article de foi. Si on n'est pas capable d'expliquer les lois, de les voter au nom du peuple et de sa rationalité, alors on impose des lois comme des articles de foi. Et le jour où on vous dit « mais ça, ce ne sont que des valeurs, moi j'en ai d'autres », eh bien, elles sont balayées. Personne ne peut m'imposer un vivre ensemble autre que celui qu'exige la loi, laquelle n'a pas d'autre fin que la liberté et le déploiement des talents de chacun. Personne ne peut m'imposer de croire à quoi que ce soit, ne pas être sujet, mais citoyen, je reprends la formule de mon ami Jean-Pierre. J'en viens pour terminer à une actualité plus récente, parce que j'ai beaucoup parlé du XVIIe et du XVIIIe siècle, mais j'ai essayé de montrer pourquoi on a intérêt à y remonter aujourd'hui pour repenser la laïcité. Du point de vue des concepts, c'est vrai que la mise en place de la laïcité il y a un siècle en France n'a pas apporté de grandes nouveautés du point de vue des concepts philosophiques. En revanche, cette mise en place propose une expérience historique et politique que, je crois, il faut méditer. Car la France de la fin du XIXe et du début du XXe siècle a dû installer la laïcité non pas à un fort pluralisme religieux, comme dans les pays anglo-saxons, mais face à une religion hégémonique qui faisait la loi et qui ne supportait pas d'exception. N'oublions pas quand même la révocation de l'édit de Nantes, n'oublions pas les actes d'État civil, etc. Autrement dit, les Français ont une expérience, depuis la révocation de l'édit de Nantes, de ce qu'on appellerait aujourd'hui un intégrisme religieux. Ils savent faire. Il faut tout de même se demander pourquoi, aujourd'hui, le régime de laïcité est préférable au régime de tolérance. Je viens de donner une partie de la réponse que je propose. Oui, en France, nous avons l'expérience de ce que c'est qu'une hégémonie religieuse. Et nous savons faire, nous avons une expérience historique. Et c'est la réponse, c'est la laïcité. Le cœur politique de la différence entre le régime de la tolérance et le régime de laïcité, c'est l'accès des communautés en tant que telles à l'autorité politique. Le cœur philosophique, bon, j'ai essayé de le caractériser, le cœur philosophique de cette différence, c'est la question de la manière dont on disjoint la foi et la loi, et jusqu'où on les disjoint. Le cœur politique de cette différence, c'est la question de l'accès des communautés en tant que telles à l'autorité politique. Le régime de laïcité accorde des droits très étendus à toutes les communautés, ne serait-ce que par la loi, les lois sur les associations. Les lois sur les cultes, qui sont quand même très favorables. Je parle, par exemple, au point de vue fiscal. Je parle sous le contrôle des élus. Le régime de laïcité accorde des droits très étendus à toutes les communautés. Contrairement à toutes les toutes les choses que vous entendez ici et là, la France brime les communautés, c'est complètement faux. Pourvu que cela ne contrarie pas le droit commun. Mais ces droits accordés aux communautés sont des droits civils. Aucune communauté en tant que telle ne peut se voir reconnaître un statut politique. Bon, ça ne veut pas dire que les membres des communautés ne peuvent pas être élus, ne peuvent pas faire de politique, ne peuvent pas faire valoir leur point de vue, mais ils doivent le faire valoir comme citoyens. La souveraineté réside dans les citoyens et leurs représentants élus, et les droits sont les mêmes pour tous. On ne peut pas imaginer, par exemple, que le pouvoir législatif ou exécutif soit distribué selon des quotas communautaires. On ne peut pas imaginer que des représentants escalités des communautés siègent dans les instances législatives ou exécutives, ce qui, je le répète, ne les empêche nullement d'entrer dans le débat politique pour faire valoir leur point de vue. On ne peut pas imaginer que des citoyens doivent passer par des porte-paroles d'une communauté pour faire valoir leurs droits, ou que d'autres soient renvoyés à un droit personnel. Si on ne peut pas l'imaginer, hélas, c'est la réalité même, puisque en matière de législation matrimoniale, les femmes sont renvoyées, les femmes étrangères sont renvoyées très souvent à un droit personnel. Aucune communauté, en tant que telle, n'est admise à faire sa loi sur aucune portion du territoire et sur aucune portion des citoyens. On pourra m'objecter qu'en régime de tolérance, le droit de l'individu, lui aussi, est préservé, notamment dans les grands pays que j'ai cités. Royaume-Uni, Pays-Bas, États-Unis, pour ne citer que les plus connus. Même si les communautés peuvent y jouir d'une reconnaissance politique. Or, c'est justement là que le bât blesse aujourd'hui, qu'il y a un point de virulence. Il se trouve que, effectivement, ce droit de tolérance, avec communauté représentée et reconnue, a fonctionné et que ça ne fonctionne plus très bien. Car cela ne fonctionne qu'à la condition qu'existe un consensus entre ces communautés. Qu'existe un consensus dans lequel les communautés acceptent de ne pas imposer leur loi comme exclusive, acceptent de laisser leurs prétendus membres libre de l'équité, libre de dire et de faire ce qui est réprouvé par la communauté, mais permis par la loi. Par exemple, d'épouser qui ils, je devrais dire plutôt elles, veulent, ou dire que Dieu n'existe pas, ou que Dieu est idiot. Ce qui est d'ailleurs tout à fait vrai, puisque pour les monothéismes, il n'y a qu'un seul Dieu, donc il est forcément idiot, au sens strict. Cela ne fonctionne que si elles acceptent que la critique puisse se déployer. Donc il faut un consensus préalable, vous voyez, pour que le système des communautés qui s'articulent les unes aux autres puisse être viable. Bon, il y a d'autres conditions philosophiques que j'appellerais la psychologisation de la croyance. Parce qu'il ne faut pas oublier que la croyance n'est pas seulement une question de croyance, justement. Ce que nous appelons religion, ça ne se réduit pas forcément à des croyances. Il y a des religions dans lesquelles les gens ne croient pas. Pour eux, c'est vrai. C'est vrai, c'est ontologique. Et là, vous n'allez pas pouvoir leur dire « mais d'autres pensent autrement ». Ils diront « non, ils sont dans l'erreur ». Donc si vous psychologisez la croyance, là, ça va. Chacun son opinion, vous voyez, vous pouvez dire ça. Mais là où ce n'est pas psychologisé, où il y a refus de psychologisation, et ça peut être pour de très grandes raisons, des raisons ontologiques, des raisons métaphysiques, vous ne pourrez pas dire « attendez, d'autres, les autres points ». Non, il y aura un système scolastique. Or, la laïcité, elle s'en fiche complètement de ça. Elle dit, mais attendez, nous, vous faites ce que vous voulez, mais il y a le droit. Et vous amputez vos prétentions à faire la loi. C'est tout. C'est beaucoup. Mais c'est tout. Un dogmatisme intégriste n'est pas soluble dans le système de tolérance. De ce point de vue, le régime de laïcité est mieux armé parce qu'il monte la défense d'un cran plus haut. Il ne propose à aucun groupe un accès à l'autorité politique. Il ne préjuge pas de la nature même de ce que c'est qu'une religion. Alors moi, quand j'entends des gens dire « il faut convaincre, par exemple, les femmes voilées d'enlever leur voile, leur dire que ce n'est pas dans l'islam », mais si elles croient que c'est dans l'islam, vous ne pourrez pas les dissuader. Locke le dit, enfin, il ne dit pas ça au sujet des femmes voilées, il dit ça au sujet des catholiques, d'ailleurs. S'ils sont persuadés que le pape est infaillible, vous ne pourrez pas les persuader. Vous ne pourrez pas leur faire penser le contraire. Vous pourrez bien sûr faire un travail labouré avec les lumières, installer l'école, etc. Mais vous aurez toujours des points comme ça de résistance. Donc la laïcité va dire, mais attendez, nous, bien sûr, on met en place des systèmes de rationalité, mais il y a un système qui partage les choses, la loi, vous la respectez, vous ne faites pas la loi, vous ne réglez pas les mœurs. C'est la loi qui le fait. Donc, le régime de laïcité est mieux armé parce qu'il monte la défense d'un cran plus haut. Il ne propose à aucun groupe l'accès escalité à l'autorité politique. Il n'en sacralise aucun. Il impose à toutes les communautés d'accepter cette amputation. Face à une religion hégémonique, disons que l'expérience historique française a acquis un certain savoir-faire qui mérite attention. En régime laïque, une législation sur le blasphème ou qui placerait les religions au-dessus de toute critique est impensable. En outre, ce régime rend les citoyens très sensibles à la question de l'accès des communautés à l'autorité politique. Leur seuil de réaction à cette question est très bas. Ce seuil très bas, contrairement à ce qu'on entend dire parfois, n'est pas du tout un signe d'intolérance, mais au contraire le signe d'un profond attachement à la liberté et à la souveraineté des individus. Donc pour conclure, voilà, ce que je voulais faire en relation avec le sujet de cette rencontre, c'est distinguer au fond deux usages de l'expression vivre ensemble. Le vivre ensemble de type communautaire et coutumier, qui certes est respectable, mais qui aboutit, si on le transforme en système politique, à une juxtaposition de groupes identitaires et fusionnels, des groupes de potes. Et des groupes de potes qui seraient au mieux se regardent en chien de faïence, au pire, se lancent des projectiles. Et puis, nous avons un usage républicain de l'expression « vivre ensemble » qui suppose que chacun est attaché à sa liberté, au déploiement de ses forces et de ses talents. Et pour ça, il faut se mettre ensemble. Sinon, il n'y a aucune liberté, aucune force, aucun talent. Et que c'est cet attachement qui produit l'union de tous. Union plus forte que ne l'est toute, aucune communauté, aucune ethnicité. Pourquoi ? Parce qu'elle est sans cesse à reconstruire, parce qu'elle est sans cesse pensée. Elle ne vous est pas octroyée, elle n'est pas donnée. Et il faut se battre pour la maintenir et pour l'étendre. Cette union est une fraternité, ce n'est pas une identification. Il y a plusieurs manières de faire l'union, par l'identification. On est pareil, mais non. Mais non, justement. Vous allez voir un film avec des E.T. Eh bien, on n'est pas pareil. Et pourtant, nous sommes bien, on a bien reconnu là son semblable, qui est capable de raisonner, de discuter, de se mettre en colère, ou plutôt de s'indigner. Donc, la fraternité, ce n'est pas l'identification. Elle comprend aussi cette union. Elle comprend, bien sûr, et surtout, ceux qui ne sont pas mes potes. Je vous remercie.